إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui on commence le cours numéro 11 dans notre série des cours sur Al-Mulakhas al-Fiqhi, un livre de fiqh écrit par le Cheikh Saleh al-Fawzan. Et donc, on commence aujourd'hui à expliquer, ou bien plutôt on continue à expliquer les conditions de la salat, les conditions de la salat. La dernière fois, on a commencé à expliquer la condition qui est Sitr al-Awra, ou Satr al-Awra, c'est-à-dire de couvrir al-Awra. Al-Awra, c'est les parties du corps qui sont nécessaires à de couvrir, la nudité, et les limites de ça dans, selon la charia. Bien entendu, les limites de l'Awra, selon la charia, elles sont bien définies et claires. Et l'Awra, c'est pas quelque chose qui se définit par rapport à, aux traditions et aux coutumes, ou bien aux différentes sociétés. Parce que si c'était le cas, eh bien, chaque fois qu'on irait dans une différente société ou dans une différente partie du monde, eh bien, on aurait une aura qui serait différente d'une place à l'autre. Par exemple, si on irait en Amazonie ou dans certaines tribus de l'Afrique ou de par exemple de l'Australie ou différents endroits dans le monde, eh bien, l'aura, ça se limiterait juste à, c'est-à-dire rien du tout presque. D'accord? Que pour plusieurs peuples, yani, ils vivent complètement nus. Donc ça, c'est des exemples de communautés ou de peuples qui vivent loin de la compréhension ou de la connaissance de la charia. Et donc, à cause de leur ignorance, justement, ils vivent dans la nudité. Mais, dans les sociétés occidentales, l'aura diffère d'un endroit à l'autre. Par exemple, pour certaines personnes, par exemple à la plage, ils vont montrer des parties de leur aura, alors que en ville, ils vont montrer d'autres parties de leur aura qui sont pas, qui peuvent, par exemple, à la plage, ils montrent des parties de leur aura qu'ils ne peuvent pas montrer en ville parfois. Toutefois, en ville, ils montrent également des parties de leur aura, et donc c'est pour ça que pour eux, il y a certaines choses qui sont pour nous interdites de montrer, et pour eux, c'est considéré comme étant correct. Et c'est pour ça que on ne peut pas se référer aux notions ou bien aux définitions que ces gens-là ont établies, comme par exemple pour définir qu'est-ce qui est la modestie, qu'est-ce qui est, par exemple, décent de montrer, ou qu'est-ce qui est considéré pour eux comme étant obscène ou yani provoquant. Pour eux, pour les koufars, ça n'a pas rapport du tout avec qu'est-ce qui est considéré comme tel par nous les musulmans, d'accord? Parce que pour nous, tout ça c'est déterminé et délimité par les règles de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et donc c'est pour ça que on doit comprendre que al-awra, c'est selon le Coran et la Sunna qu'on doit le comprendre. Il y a certains groupes musulmans ou certaines personnes parmi les musulmans qui ont prétendu que les limites de la aura ou les limites du hijab doivent être déterminées selon la culture ou la coutume ou l'endroit où la personne est dans le monde, et que pour eux, selon eux, il n'y a pas une façon spécifique ou une sorte spécifique de une façon spécifique pour une personne de se couvrir, d'accord, comme en particulier pour la femme. Donc ils disent que ce qui est considéré comme étant modeste dans une communauté ou dans une société, eh bien c'est considéré comme étant le hijab, et ça c'est une fausse conception, totalement fausse, parce que la description et la définition du jilbab et du khimar et de tous ces termes qui sont mentionnés dans le Coran sont définis et clarifiés par les salafs, parmi les sahaba et les tabi'in, et donc c'est clair qu'il y a une façon spécifique de le porter, et c'est donc pas une chose qui peut, disons, être interprétée selon la société où on vit. Sinon, comme je disais au début, chaque personne pourrait se couvrir d'une façon la façon qu'il veut et prétendre qu'il a couvert sa aura. Donc, ça nous ramène en même temps à commencer à expliquer, en fait, à parler du sujet du hijab. Parce que là, lorsqu'on parle maintenant de l'aura, ou cette l'aura, eh bien, en réalité, on parle en même temps du hijab et de la limite du hijab ou du jilbab dans l'islam. En fait, ça nous fait en même temps réfléchir ou comprendre un point très important. C'est que par exemple, il n'y a jamais eu, dans, disons, les siècles passés, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à disons, le 20e siècle ou même le 19e siècle peut-être, il n'y a jamais eu vraiment de savants de l'islam, des ulama, qui ont écrit des livres spécialement sur le sujet du hijab. On n'en retrouve pas en général, d'accord? Pourquoi? Et la raison pourquoi, c'est très simple. C'est que les ulama de l'islam, ils écrivent sur des sujets uniquement s'il y en a une nécessité ou s'il y a un besoin pour décrire sur un sujet en particulier. Donc, ils n'écrivent pas de livres ou de choses excepté s'il y a une nécessité. D'accord? Donc, par exemple, si on retourne à la période des salafs, c'est-à-dire des sahaba, on ne va pas trouver à leur époque des livres sur le tawhid. D'accord? Parce que, bien entendu, le tawhid était bien compris et bien appliqué à leur époque. On ne trouve pas des livres non plus sur Al-Asma ou Sifat. Pourquoi? Parce que c'était bien compris. On ne trouve pas non plus de livres sur Al-Qadar. Tout ça, c'était des choses qui étaient expliquées, clarifiées. Et pour eux, c'était compris. Il n'y avait pas de shubuhat. Mais lorsque les shubuhat sont apparus, lorsque les bid'ahs sont apparus, les gens ont commencé à écrire. La même chose pour la langue arabe. Les gens n'avaient pas besoin d'écrire des livres sur la grammaire, parce qu'ils parlaient déjà l'arabe comme il faut, sans faire d'erreur. Donc, ils n'avaient pas besoin de grammaire. Mais c'est quand il y a eu des mélanges dans la langue, le fait de côtoyer d'autres peuples qui parlent d'autres langues, et que la langue arabe a commencé à être mélangée un peu, alors là, c'était nécessaire de rassembler les règles, en étudiant comme il faut les règles de la langue arabe pour établir des règles et des principes pour préserver cette langue. La même chose pour la plupart des sciences islamiques, c'est comme ça que ça s'est apparu. Et donc, le hijab, c'est la même chose. Tant qu'il y avait personne, tant que le hijab était pratiqué et compris par tout le monde, alors il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas de nécessité d'écrire un livre sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit les livres, par exemple, des ulama d'aujourd'hui, lorsqu'ils parlent du hijab, eh bien, en général, ils se réfèrent aux livres et aux paroles des ulama qui sont rassemblés dans les livres de hadith au sujet, par exemple, de Shurut al-Awra, par exemple, Shurut al-Salah, les conditions de la prière dans les livres de fiqh, en ce qui concerne les conditions pour la prière. Là, ils mentionnent le fait de couvrir sa aura, et c'est là qu'il mentionne les règles du hijab et les règles de la prière, d'accord? Et également, on retrouve ça dans les livres de hadith également, dans certains chapitres, comme dans les chapitres de mariage et dans les chapitres de tafsir, et on trouve ça également dans les livres de tafsir des ulama lorsqu'ils expliquent les versets qui parlent du hijab. Donc, on voit que ces écrits-là ou ces paroles-là qui concernaient, par exemple, les règles du hijab n'étaient pas rassemblées dans des livres spécifiques ou spécialement pour le hijab, mais c'était, ça faisait partie, disons, d'un travail ou d'une œuvre ou bien d'un recueil de hadith ou d'explications de tafsir ou de fiqh qui était beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui n'était pas limité à un seul sujet. Et donc c'est ça que les ulama ont fait, donc ils ont rassemblé les paroles et les explications des ulama à ces sujets-là, et puis ils les ont réunis pour expliquer qu'il y a une obligation de porter le hijab aujourd'hui. Et yani, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a, l'apparition de différentes manifestations de déformation du hijab, que des femmes ont commencé à porter des choses et à appeler ces choses-là hijab, alors que ces choses-là sont totalement en contradiction avec la réalité de ce que ça signifie, le hijab ou le jilbab ou le khimar, hein, comme c'est expliqué dans le Coran et comme c'est expliqué dans la Sunna et comme c'est expliqué dans les explications des salaf salih. Donc c'est pour cette raison-là que y a certaines personnes qui ont essayé de dire non, il n'y a pas de telle description du hijab telle que des femmes le portent aujourd'hui, hein, commencer à nier ça. Et ça a semé un peu de confusion. Le fait que tu vois des femmes avec un petit foulard et puis des jeans, hein, et que là, des gens commencent à porter ça comme un signe d'appartenance à l'islam, ou bien quelque chose qui a rapport avec l'islam, alors qu'en réalité ça n'a aucun rapport avec l'islam. Comme si le hijab ça se limitait seulement à porter un foulard sur la tête, peu importe qu'est-ce que tu portes en bas, même si c'est un bikini. Hein? Donc ça c'est complètement absurde. Et donc on va commencer à expliquer et à lire les paroles du cheikh, et puis c'est un petit résumé en même temps, une petite explication sur les règles du hijab dans la prière. Et puis ça c'est un point important à faire comprendre en même temps, c'est que lorsqu'on parle de la awra dans la prière, c'est différent que la awra lorsque la femme est en dehors de la prière aussi. Et ça c'est une chose qui porte à confusion pour certaines personnes parfois, mais le cheikh il le mentionne, puis on va donc comprendre inshallah. Et ça se comprend en particulier lorsqu'on parle de la question de couvrir le visage, d'accord? Donc on va y revenir inshallah. Donc le cheikh il dit ayyuha al-muslim innahu yajib sitr al-awra bima la yasifu basharataha. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم سورة الأعراف. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواه أبو داود وابن ماجة. وفي الحديث الآخر غطي فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه. Donc le cheikh explique ici, il dit que c'est obligatoire de couvrir al-awra. Et al-awra, yani on va expliquer c'est quoi les limites de cette awra. Yani, c'est-à-dire donc le cheikh il dit c'est obligatoire de couvrir al-awra par quelque chose qui ne laisse pas voir la peau, qui ne laisse pas apparaître la peau. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre pour vous des vêtements pour cacher ou pour couvrir votre nudité. Et de couvrir al-awra avec des vêtements qui sont amples et qui sont opaques, c'est-à-dire qui ne laissent pas passer la lumière, ou disons qui empêche de voir ce qui est en dessous des vêtements, d'accord, c'est-à-dire ils sont pas transparents, de couvrir avec quelque chose qui est vraiment qui recouvre vraiment comme il faut, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et la limite de la awra pour l'homme, pour le mâle, c'est du nombril jusqu'au genou, ok, min as-surra ila rukba. Et le cheikh il dit que ça c'est prouvé par un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui dit ne montre pas tes cuisses et ne regarde pas la cuisse d'une personne morte ou vivante, d'accord. Et ça c'est rapporté par, comme on a dit, Abu Daoud ibn Majah, etc. accepter que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Toutefois, en ce qui concerne les cuisses, il y a d'autres hadiths authentiques qui sont mentionnés, comme le cheikh le mentionne lui-même. Il dit, « وَفِي الْحَدِيثَ الْآخَرَ غَطِّي فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ أَوْرَى » Ça, c'est un autre hadith qui est rapporté par Malik et Ahmed et At-Tirmidhi et également Abu Dawood. Et c'est rapporté selon Ibn Abbas et également par Jarhad dans Tirmidhi et dans Abu Dawood. Et il est authentique celui-là, d'accord? Le premier que j'ai mentionné tout à l'heure, il est Da'if Jiddan, comme l'Albani l'a mentionné dans son livre Irwa, le hadith numéro 269, tandis que l'autre il est authentifié, j'ai vérifié dans Sahih Tirmidhi et il est authentique. Donc le cheikh il dit par la suite, le hadith il dit couvre tes cuisses car la cuisse est aura, c'est-à-dire la cuisse fait partie de la aura. Il dit wa ma'a hadha kulli
nara ma' al-asaf ash-shadid كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ويغطون ولا يغطون إلا العورة المغلظة وهذه مخالفة أو مخالفة صريحة لهذه النصوص فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها.
Donc le cheikh il dit que c'est très dommage de voir que en fait il y a beaucoup d'hommes lorsqu'ils jouent par exemple à un jeu, un sport comme le football ou d'autres jeux, ils découvrent ou ils montrent leur cuisse et ils ne couvrent que leur aura qui est disons la plus sérieuse ou la plus grave à cacher. Et le reste, ils le montrent, et ça, c'est quelque chose qui est contradictoire. Hein. C'est-à-dire, leur aura, leur nudité, ça, ils la couvrent, mais ils laissent passer d'autres parties de leur aura qui est interdit de dévoiler ou de démasquer ou de montrer, disons, de montrer. Bon, ok. Après, le cheikh, il dit, et ça, c'est clair que c'est une contradiction avec les textes. Ça vient en contradiction avec les textes. Et donc, c'est obligatoire pour eux de faire attention à ça et de se limiter aux règles de leur religion et de ne pas se tourner vers ce qui est en contradiction avec ces règles de la religion-là. Et le cheikh, il dit par la suite, « وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةً » Tandis que la femme, elle, sa aura, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple, c'est son corps en entier. Toute la femme est aura, c'est-à-dire toute la femme, tout le corps de la femme pour les hommes étrangers c'est une aura en entier, c'est-à-dire c'est toute une partie intime, la femme en entier, et donc on ne peut rien voir de la femme. Et le cheikh il mentionne comme preuve de ça le hadith qui est apporté par Tirmidhi, qui est authentique également, apporté selon Abdullah ibn Mas'ud qui dit Al-mar'atu awra. La femme est awra en entier. Hein? C'est pas une partie seulement. Hein? Comme certains qui disent, ah, mais y a pas de problème si tu peux montrer une main, un bras. Hein? Et les kuffars, eux, c'est pire encore. Des fois, ils vont même plus loin que ça à dire qu'il y a pas de différence entre une partie du corps et une autre. Tout c'est pareil. Hein? Donc ça c'est l'égarement de ces gens-là. Mais al-mar'atu awra. Hein? Donc le cheikh dit, et ça c'est le hadith, c'est la preuve. Et il y a un autre hadith qui est rapporté par Salama. Le cheikh dit wa li hadith Salama atusalli al-mar'a fi dir'in wa khimar wa laysa 'alayha izar. قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود. C'est un autre hadith qui est apporté par Abu Daoud. C'est le hadith 240 dans le livre de Abu Daoud. J'ai pas le temps de vérifier par contre son authenticité, mais on vérifiera inshallah une autre fois. Je vous dirai par la suite inshallah. Donc le cheikh il dit que ça c'est rapporté dans le hadith de Umm Salama. Ça dit, est-ce que la femme peut prier avec une robe et un khimar alors qu'elle n'a pas d'izar en dessous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si la robe est grande et qu'elle est ample et qu'elle couvre le dessus des pieds, elle peut prier avec. D'accord, donc ça c'est rapporté par Abu Daoud comme j'ai dit. Et il y a un autre hadith qui est mentionné ici, wali Abi Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah min hadith Aisha la yaqbalu Allah salata ha'id illa bi khimar. Ça c'est un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah selon Aisha radhiyallahu anha. Ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas la prière d'une femme qui a ses règles, c'est-à-dire qu'elle a atteint la puberté, sauf si elle porte un khimar. D'accord? Donc elle doit porter un khimar. Na'am. Et le cheikh dit wa qala At-Tirmidhi wal 'amalu 'alayhi 'inda ahli al-'ilm anna al-mar'ata idha adrakat فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Tirmidhi lorsqu'il a mentionné ce hadith là dans Jami' al-Tirmidhi. Il dit que les ulama ont toujours agi selon ce hadith là, tous les savants, les gens du ilm ont agi selon ce hadith, et ils disent que la femme lorsque elle prie, si quelque chose de sa aura est découvert, alors sa prière n'est pas valable. Le cheikh dit par la suite, وهذه الأحاديث مع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. Donc ça c'est le hadith dans sourate An-Nur, le verset 31, c'est l'aya dans sourate An-Nur, le verset 31, qui dit que les femmes ne doivent pas montrer de leur parure, excepté ce qui en apparaît naturellement, et qu'elles rabattent leur voile, leur khimar, sur leur juyub, c'est-à-dire sur l'ouverture de leur robe, et qu'elles ne montrent rien de leur parure, excepté à leur mari et le reste du verset. Donc ça veut dire que dans ce hadith, il y a l'explication du khimar que la femme doit rabattre sur sa poitrine. Et juste pour clarifier un petit peu au sujet du khimar, le khimar, c'est un foulard que les femmes avant l'islam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles portaient ça sur leur tête. Elles portaient un khimar, d'accord? Toutes les femmes, c'est connu qu'elles portaient ça. Un peu comme qu'on voit les statues de Marie, comme les koufars, ils font des images de Marie, les statues de Maryam, alayhi salam. Donc, elle, on voit dans ces images qu'elle portait un khimar sur sa tête, sur ses épaules. Et qu'est-ce qu'elle faisait parfois, des fois les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient leur khimar et peut-être qu'elles pouvaient également l'attacher par derrière, ou etc. Donc, pour couvrir leurs cheveux. Toutefois, elles montraient leur poitrine. On sait que les femmes aiment porter des décolletés qui font apparaître une partie de leur poitrine. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-jayb. Al-jayb. On appelle également al-jayb les poches. Le pluriel de jayb, c'est juyub. D'accord? Donc, khumur, c'est le pluriel de khimar. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit qu'elles rabattent leur khimar sur leur juyub. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles rabattent ce foulard qu'elles portent sur la tête, qu'elles le rabattent par devant pour qu'il tombe par-dessus la poitrine. Ou bien par-dessus le décolleté où on voit une partie de la poitrine qui apparaît. D'accord? Donc ça c'est le khimar. Ok? C'est la description du khimar. C'est pas comme certains qui ont mal compris ce verset, yani, qui s'imaginent autre chose. C'est clair, yani, la façon que c'est décrit. Et le khimar, c'est quelque chose que la femme porte en dessous de son djilbab. Comme on va voir dans le verset suivant que le cheikh a mentionné. Le cheikh il dit, وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
نعم. Et donc ça c'est le verset 59 dans sourate Al-Ahzab. C'est un verset qui dit au messager, au prophète, pardon, au prophète, dis à tes femmes, à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de qu'elles mettent sur elles leur djalabib, hein, leur djalabib. Et c'est quoi le djalabib? Djalabib, c'est le pluriel de djilbab. Et le djilbab, c'est défini et expliqué clairement par les sahaba et par les tabi'in dans les livres de tafsir. Si vous retournez, vous allez voir que les femmes, quand l'ordre du djilbab est descendu, les femmes ont déchiré des parties de leurs vêtements, des parties de tissu qu'ils avaient, des grandes pièces de tissu, et elles se sont recouvertes avec. Donc c'est une grande pièce de tissu qu'une femme prend et qu'elle met par-dessus sa tête et qui recouvre tout son corps de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est les vêtements, et c'est un vêtement, le djilbab, que la femme porte par-dessus ses vêtements qu'elle porte à l'intérieur devant sa famille. D'accord? C'est pas une robe qu'elle porte en dedans puis elle sort avec dehors, comme certaines femmes elles font aujourd'hui. C'est plutôt, on pourrait plutôt dire que c'est comme un manteau que la femme porte uniquement lorsqu'elle sort de sa maison, hein. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes vêtements qu'une femme peut porter devant sa famille, devant la maison, dans la maison. C'est quelque chose de plus supérieur, ou disons c'est quelque chose de plus que qu'est-ce que la femme porte à l'intérieur devant son père, devant son mari, devant ses frères, ses enfants, devant ses sœurs et ses frères, sa mère, etc. Quand elle est devant les gens à la maison, elle peut enlever son djilbab, hein, mais elle va pas rester toute nue, hein. Elle reste avec sa robe et ses vêtements qu'elle porte, ou bien une jupe, ou bien quelque chose d'autre, une blouse ou quoi, devant sa famille, des vêtements décents. Toutefois, quand elle sort, elle sort pas comme ça. Même si c'est des vêtements longs, même si c'est des vêtements amples, elle sort pas comme ça avec un foulard sur ses cheveux comme les femmes font aujourd'hui. Par-dessus ça, elle met son djilbab qui couvre complètement son corps de la tête aux pieds, et là elle sort avec. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas compris. Et on les voit qui sortent avec une jupe et un blouson ou quelque chose comme ça, puis avec un foulard sur les cheveux, et elles sortent habillées comme ça, comme si elles ont le droit de faire ça. Elles pensent que si elles ont fait ça, elles pensent que ça c'est le hijab. Alors qu'en réalité, ça respecte pas les conditions. Il faut que la femme mette son djilbab par-dessus ces vêtements-là. Par-dessus ce qu'elle porte, elle met ce djilbab et elle sort à l'extérieur. Et donc, c'est ça ce qui est expliqué par plusieurs parmi les salafs. Par exemple, quand on a demandé certains comme Mohammed ibn Sirin et un autre des sahabes qui s'appelle, j'ai oublié son nom, en tout cas c'est un des tabi'in, ibn Mohammed ibn Sirin, de lui montrer comment les femmes portaient le djilbab à l'époque. Et là, il lui a donné une démonstration pour lui montrer comment les femmes doivent le porter. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le djilbab, il a pris une grande couverture, et il l'a mis par-dessus sa tête, et il a couvert tout son corps avec, et il a gardé seulement un petit espace pour regarder avec un œil, hein. Pour regarder avec un œil pour qu'elle puisse voir le chemin. Donc ça veut dire, c'est comme si la femme elle se couvre tout son corps avec ce drap là quand elle sort dehors, et elle garde juste un espace pour regarder avec ses yeux, d'accord, pour pouvoir voir le chemin où est-ce qu'elle marche, hein. Donc on voit que quand on a compris cette explication là du djilbab, qu'est-ce que ça signifie, ça n'a rien à voir avec le hijab moderne que les femmes portent en Occident et dans les pays musulmans aujourd'hui, qui est devenu plus comme une mode, hein, que le hijab islamique. Maintenant, c'est rendu que il faut que le hijab soit à la mode, il faut que le hijab soit beau, il faut que le hijab soit attirant, hein, c'est rendu comme ça. Et Allah Musta'an, même dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une affiche, une publicitaire d'un magasin ici qui vend
des robes pour femmes, c'est un magasin, le propriétaire c'est un musulman, il vend des choses pour les femmes musulmanes, soi-disant des hijabs. Et lorsque tu vois sur l'annonce publicitaire, c'est écrit porter le hijab tout en restant à la mode ou quelque chose de ce genre. Comme si le hijab était fait pour avoir une belle apparence ou bien pour paraître bien. Et on voit que certaines femmes modernistes et même certaines soi-disant musulmanes féministes, eh ben elles se font des sortes d'agencements de hijab colorés avec le haut et le bas qui agencent et tout, et puis c'est comme une sorte, ça devient comme une sorte de mode, hein, que les femmes s'habillent de cette façon-là pour, on dirait, pour plaire. Et donc quand les femmes, ces femmes-là par exemple sortent dans la rue ou bien vont au travail ou des choses comme ça, elles se mélangent avec les hommes, elles pensent qu'elles ont respecté les règles de l'islam et elles pensent que qu'est-ce qu'elles portent, c'est un hijab islamique, alors qu'en réalité c'est contradictoire avec ce que Allah a commandé aux femmes de porter. Na'am, donc il y a cet aspect-là qu'on a voulu clarifier ici, qui prouve clairement l'obligation pour les femmes de se couvrir comme il faut. Et parfois même, c'est un jeu, justement, c'est à ce jeu-là que certaines femmes ont joué en voulant nier, par exemple, le hijab. Quand elles disent, par exemple, il n'y a nulle part dans le Coran où c'est écrit le hijab, parfois qu'est-ce qu'elles signifient ou qu'est-ce qu'elles veulent dire par là? Elles veulent dire justement le hijab que ces femmes-là portent aujourd'hui, comme des pantalons ou bien les vêtements qu'elles sortent dehors avec et qu'elles mettent un foulard sur la tête. Elles veulent dire ça, c'est-à-dire cette façon de porter le hijab qui est une appartenance à un groupe islamique ou bien à l'appartenance à une tendance qui est nouvelle, yani ça a pas rapport avec le fait de suivre le Coran et la Sunna. Elles disent que ces choses-là, cette façon de porter le hijab, ça c'est pas dans le Coran. Et dans un sens, c'est vrai, qu'est-ce qu'elles disent. Toutefois, si elles veulent dire par contre que le jilbab, la façon dont il a été ordonné par Allah dans le Coran et dans la Sunna, que ça fait pas partie de l'islam, alors si elle nie ça, c'est clair que c'est non seulement faux, mais en même temps c'est kofr en même temps. Parce que de rejeter quoi que ce soit qui est parmi les commandements d'Allah dans la charia, eh bien ça représente un acte de mécréance. Hein, c'est comme de rejeter l'obligation de la salat. Hein, c'est la même chose. Donc, yani, ça c'est un des points qui est important à comprendre. Après le shaykh il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Ça c'est le verset 53 dans sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si vous leur demandez quelque chose en particulier, une chose quelconque, demandez-leur, c'est-à-dire demandez aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par derrière un rideau, c'est-à-dire ne leur demandez pas comme ça, mais il faut qu'il y ait entre vous et elles un rideau qui les cache. Il ne faut pas que vous soyez capable de les voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala il termine ce verset en disant, ou bien il complète le verset en disant que ça c'est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs, c'est-à-dire pour vos cœurs à vous les sahaba et pour le cœur des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un verset également qui prouve l'ordre pour les femmes de porter le hijab. Et donc le hijab être un hijab qui est déterminé ou établi par une séparation physique, comme par exemple un rideau ou un mur ou quelque chose qui sépare les hommes des femmes, ou bien également ça peut être un vêtement également lorsque la femme doit sortir de chez elle pour se cacher des regards des hommes. D'accord? Et bien entendu, bon, alhamdulillah, on connaît la sagesse divine là-dedans, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il connaît la nature de l'homme, il connaît le cœur de l'homme, il connaît le cœur de la femme, il sait ce qu'il y a dedans. Et il sait ce que ça peut causer, yani le fait que des femmes sortent en public sans se couvrir et la fitna que ça peut causer pour les hommes et pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont des fitna pour elles-mêmes, yani lorsqu'elles savent qu'elles ont un corps attirant et qu'elle crée du désir et de l'envie chez les hommes, eh bien ça, ça lui crée une fitna à elle aussi. Et donc elle devient victime de sa propre fitna. Hein. Et donc c'est grave des choses comme ça, Yanni. Donc ça la protège elle et ça protège les hommes également. Hein. Et donc ça c'est des règles qui expliquent, ou des versets qui expliquent donc comment la femme doit se voiler comme il faut pour respecter les conditions et les règles de la charia. Donc il faut que les vêtements soient, qu'ils couvrent le corps en entier, qu'ils soient opaques et qu'ils soient pas serrés sur le corps. Il faut que ce soit très ample. Et il ne faut pas que ce soit des vêtements qui sont portés pour le style ou pour être beau. Hein, c'est pas supposé d'être beau. Comme il y a des fois j'ai entendu des gens qui disent « Oh, tu es belle avec le hijab. » Hein? C'est supposé être le contraire en fait. C'est supposé d'être que la femme, justement, on ne voit pas sa beauté lorsqu'elle porte le hijab. Hein? Donc, des fois, c'est un peu des contradictions qu'on entend comme ça. Le Cheikh il dit « Wa qawlu Aisha kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam muhrimat fa'idha marra bina rijal sadalat ihdana khimaraha ala wajhiha » فإذا جاوزونا كشفناه. Ça c'est rapporté par Abu Dawood et Ibn Majah. Et ça dit que Aïcha radiallahu anha, elle a dit lorsqu'on faisait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous étions en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'ihram, c'est-à-dire qu'elles avaient commencé l'ihram, elles avaient commencé les rites du hajj ou de la umrah, c'est-à-dire que dans cette période, on sait que, par exemple, quand un homme est en ihram, il ne peut pas porter des vêtements qui sont cousus, ou bien il ne peut pas porter des sandales, disons des choses dans ses pieds qui sont cousues, et il ne peut pas non plus couper ses cheveux, couper ses ongles. Donc c'est un état qui a été traduit par certains comme étant un état de sacrilisation. Hein. Moi, j'aime pas utiliser cette expression parce que c'est trop compliqué. Donc, je préfère que on utilise le terme arabe, c'est-à-dire al-ihram. Donc, tout le monde doit comprendre lorsqu'on dit ihram qu'on parle de cet état-là. Et dans cette période-là, donc, l'ihram pour l'homme, c'est ça. L'ihram pour l'homme, c'est de ne pas porter des vêtements qui sont cousus. Donc, il porte un izar et un autre par-dessus ses épaules, un autre tissu, disons, par-dessus ses épaules qui ne sont pas cousus. Et il ne peut pas porter des choses sur sa tête. Et il ne peut pas porter non plus des choses cousues sur lui-même. Et puis, il ne peut pas tuer des animaux chassés. Il ne peut pas également couper ses ongles ni ses cheveux. Pour la femme, c'est toutefois c'est différent. L'ihram de la femme, c'est dans son visage et dans ses mains. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tantaqib al-mar'a al-muhrima walakin wa la talbis al-qaffazayn. Ça veut dire que la femme qui est en état d'ihram, elle ne couvre pas son visage et elle ne couvre pas ses mains. Elle ne couvre pas son visage avec le niqab et elle ne couvre pas ses mains avec des gants. D'accord? Donc ça c'est une chose, en fait c'est un hadith qui prouve que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout à fait connu, hein, tout le monde connaissait la règle de couvrir le visage et c'était quelque chose de courant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui parmi des gens déviés qui prétendent que le niqab c'est une bid'a, hein, c'est une chose qui est venue qui vient des Turcs et des trucs, je sais pas, Yanni, qui essaient d'inventer des mensonges à ce sujet-là. Et même il y avait un d'entre eux qui s'appelle Youssef Al-Qardawi qui disait à des femmes aux États-Unis quand il a fait une conférence là-bas, il disait aux femmes musulmanes de pas porter le niqab et que ça c'est l'extrémisme dans la religion. Et il leur disait en fait qu'elle devait plutôt ressembler aux religieuses chrétiennes, hein, et qu'elle devait essayer de se rapprocher d'elles, de leurs sœurs chrétiennes. Donc, on voit un peu la, la déviation de certaines idées là, chez certains qui essaient de déclarer que le niqab est une bid'a ou le niqab est une innovation. Et ce qui est étonnant de ces gens-là, le plus étonnant, c'est qu'ils déclarent des choses bid'a alors que c'est des choses qui sont claires dans la sunna, il y a des preuves pour montrer que c'est des choses qui existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui étaient pratiquées et appliquées et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a légiféré. Et d'autres choses qui sont clairement bid'a, ils l'acceptent et ils disent que c'est sunna. Donc ça c'est des gens, des fois on se demande qu'est-ce qui se passe un peu dans leur tête. Donc on voit donc que le niqab existait, que c'est quelque chose qui est dans la sunna, qui est permis. Et selon une grande portion des ulama de la umma, c'est quelque chose qui est obligatoire pour la femme, c'est-à-dire qu'elle doit non seulement couvrir son corps, mais elle doit couvrir également son visage et ses mains. Et ça, c'est une des positions qui est parmi les positions des ulama, qui est une des positions les plus solides, hein, qui est supportée par beaucoup de preuves de la charia. Bien entendu, il y en a d'autres ulama qui diffèrent avec cette position-là et qui prétendent que c'est uniquement recommandé pour la femme de couvrir le visage. Toutefois, tout le monde est d'accord pour dire que il faut pas juste se limiter à qu'est-ce qui est recommandé, c'est-à-dire il faut pas se limiter seulement à qu'est-ce qui est obligatoire dans l'islam, mais plutôt il faut plutôt faire des efforts pour faire ce qui est recommandé. Qui va être satisfait de juste faire qu'est-ce qui est obligatoire s'il veut vraiment faire partie des gens qui veulent être dans les plus hauts degrés du paradis? Ils doivent faire plus d'efforts pour arriver à justement s'élever à des niveaux plus hauts de foi et d'application de la religion. Pourquoi se limiter au minimum, hein? Et donc ça c'est par rapport à ceux qui prétendent que c'est seulement recommandé. Et ceux qui disent par exemple que c'est, par exemple comme il y a certaines personnes qui disent que c'est juste recommandé, ceux qui, les ulama ont dit que tout le monde est d'accord pour dire que même dans tous les madahib, une règle qui dit que si dans la fitna, si dans la société il y a de la tentation et des fitna, des désirs, et qu'il y a beaucoup de corruption et de désordre dans la société, ça devient obligatoire à ce moment-là pour la femme de couvrir son visage. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est bien. Et on réalise que c'est toujours mieux que la femme se couvre. Et comme des ulama ont expliqué, yani, si on peut dire que de couvrir les pieds de la femme c'est obligatoire, alors comment on peut négliger son visage alors que c'est la première chose qu'on regarde lorsqu'on parle à quelqu'un, hein? Donc ça veut dire que yani, si les pieds doivent être couverts, eh bien, le visage doit être encore plus, mérite encore plus d'être couvert que les pieds. D'accord, ça c'est une des arguments logiques que certains ulama ont amené pour supporter les textes qui montre ou qui mentionne les règles qui ont rapport avec le fait de couvrir le visage. Et bien entendu, les gens qui ont prétendu que c'est pas obligatoire de couvrir le visage ont ramené certains textes de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui semblaient exprimer ou montrer que certaines femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient montré leur visage en public. Et les ulama, bien entendu, ont répondu, ceux qui disent que c'est obligatoire, ont répondu à ces hadiths-là en disant que, premièrement, est-ce qu'on sait vraiment, est-ce que c'est de avant l'obligation du hijab ou après? Ça, c'est pas spécifié. Deuxièmement, est-ce que c'était des femmes libres ou des femmes esclaves? Parce qu'on sait que les esclaves n'étaient pas obligés de porter le jilbab. Et puis il y a beaucoup d'autres questions comme ça. Est-ce que c'était dans des cas de nécessité ou des cas qui sont des cas exceptionnels dans lesquels on a le droit de montrer certaines parties du corps, comme par exemple lors d'un mariage, lorsqu'on veut voir la femme à qui on veut marier, on a le droit de demander de regarder à son visage. Donc si c'est ça, si c'est ce cas-là, alors dans ce cas-là, comment on pourrait utiliser ces hadiths pour prouver la permission de faire quelque chose alors que ça s'applique pas vraiment et qu'il n'y a pas vraiment des preuves solides dans ces hadiths là. Donc c'est un gros débat, bien entendu. Il y a eu des pour, il y a eu des contre. Des deux côtés, les ulama ont présenté des arguments Et chacun donc doit être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et regarder les preuves qui ont été présentées par les différents ulama sur cette question et choisir ou prendre la position qui est le plus près de la vérité selon lui, c'est-à-dire ou selon elle, c'est-à-dire la personne doit faire preuve de sincérité et pas essayer de chercher uniquement à satisfaire ses désirs ou à chercher la facilité, mais à trouver la vérité et à chercher vraiment la position qui est supportée vraiment solidement par les preuves, hein. Et donc par la suite elle prend une décision, d'accord, mais pas comme certains qui veulent pas que ce soit obligatoire et qui vont tout faire pour chercher à regarder les preuves de ceux qui disent que c'est permis de pas se couvrir le visage, et puis automatiquement ils vont tomber là-dedans et puis elles disent bon ça y est, moi je suis d'accord avec cette position. Donc ça c'est un manque de sincérité envers le Coran et envers la Sunna et envers Allah subhanahu wa ta'ala bien entendu. Donc qu'est-ce qu'il dit cette parole de Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle dit lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'ihram et que des hommes portaient des hommes passaient près de nous, eh bien qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une partie de notre himar sur notre visage, ok, on mettait une partie de notre himar sur notre visage, et lorsqu'il partait ou lorsqu'il s'éloignait, eh bien là on découvrait notre visage, parce qu'on sait que dans l'ihram c'est pas permis pour une femme de porter un niqab, et le niqab c'est disons une partie de une pièce de tissu qui est fixée au visage, une pièce de tissu qui est fixé au visage, qui couvre le visage. Et donc, c'est cette chose-là qui a été interdite dans le hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le niqab en particulier. Toutefois, c'est permis pour la femme de se couvrir par autre chose que le niqab. C'est permis à la femme dans l'ihram de couvrir son visage par autre chose que le niqab s'il y a des hommes à proximité. D'accord? Par exemple, l'exemple que Aïcha radiallahu anha nous donne ici, que lorsque des hommes passaient à proximité, elle couvrait son visage avec son khimar et non pas avec un niqab. Donc si elle le couvre avec un khimar ou avec la manche de son vêtement ou quelque chose de ce genre, alors dans ce cas-là, c'est permis pour elle de le couvrir son visage. Et c'est seulement le niqab qui a été spécifié comme interdiction dans le hadith au sujet de l'ihram. Ensuite le cheikh dit وهذه نصوص ما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب. On peut pas oublier ça. Cheikh dit que ces textes nous montrent, ces textes du Coran et de la Sunna montrent que c'est obligatoire pour la femme de couvrir leur aura devant les hommes étrangers, devant les hommes étrangers. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'atu aura, c'est-à-dire que tout de la femme est aura, c'est-à-dire on peut pas exclure rien de cette aura excepté avec une preuve du Coran et de la Sunna, Donc, il y en a qui ont interprété, par exemple, la partie du verset qui disait « excepté ceux qui en apparaissent, qu'elles ne dévoilent ou qu'elles ne montrent de leur parure, excepté ceux qui en apparaissent », il y en a qui ont dit que ce qui en apparaît, c'est les mains et le visage, et il se base sur un hadith qui est rapporté par Asma, la sœur de Aïcha radiallahu anha, qui était la grande sœur de Aïcha, qui était mariée avec Azoubaïr, si je ne me trompe pas, et qui serait entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des vêtements qui sont transparents. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait tourné son visage et aurait dit, « Ya Asma, lorsqu'une femme a atteint la puberté, il n'est pas permis pour elle qu'on voit autre chose que ça et ça, et il a montré son visage et ses mains. » Toutefois, ce hadith est da'if, et il a été mentionné comme étant da'if par l'imam lui-même qui l'a mentionné, c'est-à-dire, je crois que c'est Abu Daoud, si je ne me trompe pas. Et yani, parmi les raisons de la faiblesse, il y a Khalid ibn Duraik, si je ne me trompe pas, qui a jamais rencontré Aïcha radiallahu anha, et il y a une autre raison aussi pourquoi il est faible. Et donc ce hadith ne peut pas être utilisé comme une preuve pour montrer que c'est permis de porter le, de démontrer ou de laisser paraître son visage et ses mains. D'accord? Et également, yani, Asma était une femme qui était âgée, hein, plus âgée que Aïcha, et qui était mariée avec un des grands sahabis. Et yani, les ulama ont dit donc c'est pas possible qu'elle soit, yani, qu'elle connaisse pas ces règles-là. Yani. D'accord? Il y a beaucoup d'explications qui ont été données à ce sujet-là. Donc, il y a d'autres explications par d'autres tabi'in, par exemple Ibn Abbas et par Abdullah ibn Mas'ud, qui disent que dans certaines nations, que c'est permis de montrer les vêtements. C'est-à-dire, quand on dit, sauf que ce qui en apparaît naturellement, c'est-à-dire le vêtement d'extérieur, le djilbab, lorsque la femme sort, on voit ses vêtements. Et donc, c'est ça qui est permis de montrer, parce qu'elle ne peut pas le cacher. Parfois, on voit apparaître une partie des vêtements. Donc, ce serait ça l'explication la plus correcte. Wallahu a'lam. Et, yani, en Occident, c'est surtout la position qui permet de montrer le visage qui est répandu, parce que c'est ce qui convient et ce qui facilite la vie de plus de personnes, bien entendu, parce que la société est très, très permissive et très, disons, elle se laisse aller en ce qui concerne la pudeur puis les règles de morale. Donc c'est bien sûr qu'une femme qui est en plein milieu de Paris ou en France, donc quand elle sort dehors et qu'elle montre son visage et ses mains, eh bien, ça paraît pas trop qu'elle, ça paraît pas, parce que tout le monde est en général porte une robe et un vêtement sur son dos, mais personne porte le niqab. Tandis que si tu vas aller par exemple à la Mecque ou à Médine ou bien en Arabie Saoudite, hein, et qu'une femme sort dans la rue avec son visage et ses mains découvertes, alors que toutes les autres femmes portent le niqab, le djilbab, et qu'elles couvrent leur visage, alors là, tout le monde va voir qui? Tout le monde va voir la femme qui couvre pas son visage et qui couvre pas ses mains. D'accord? Donc, on voit que des fois, on devient faible dans nos règles de l'islam par rapport à l'environnement où on est. Parce qu'on se compare toujours au pire autour de nous. On ne regarde pas ceux qui sont meilleurs, on regarde ceux qui sont plus égaré ou moins pratiquant ou moins pudique, disons. Donc dans une société où les femmes sortent dans la rue avec des vêtements qui dévoilent tout de leur corps, eh bien la femme elle sort avec un petit truc là, une petite jupe et un petit blouson avec un petit foulard sur ses cheveux, là elle a l'air d'une femme parmi les femmes pieuses de la dunya. Tandis que si elle va aller de la même façon à Mecca ou à Medina, eh bien, elle va paraître comme étant, yani, une fille qui n'a pas vraiment de morale. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en contexte et regarder les femmes des Sahaba, hein, les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des modèles. Et non pas les femmes d'aujourd'hui comme des modèles. Parce que si on regarde ça, eh bien entendu, on va toujours aller vers le bas et non vers le haut. Et donc, le cheikh ensuite, il dit, donc, devant les hommes étrangers, c'est obligatoire pour la femme de couvrir son corps. ولا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. Donc le cheikh il dit c'est pas permis lorsqu'il y a la présence d'hommes étrangers pour la femme de montrer quoi que ce soit de son corps, que ce soit dans la salat, dans la prière ou en dehors de la prière. Donc elle ne peut rien montrer de son corps en présence des hommes étrangers, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, que ce soit son visage ou ses mains ou autre, il ne veut rien montrer. Après il dit أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة فهو ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم إليه. Donc le cheikh il dit si la femme prie dans un endroit qui est vide, il n'y a pas d'homme étranger dedans, alors c'est permis pour elle de montrer son visage et ses mains dans la salat. Parce que c'est pas aura dans la salat. Toutefois, c'est aura pour les hommes. S'il y a des hommes autour, elle doit le couvrir et ils n'ont pas le droit de la regarder. Hein? Ils n'ont pas le droit de la, de regarder son visage et ses mains. Alors imaginez, subhanallah, les femmes musulmanes maintenant, parmi les activistes, et surtout celles qui ont les tendances un petit peu ikhwaniya, qui se mélangent dans les universités, qui s'assoient hein, face à face avec un musulman ou bien un kafir, et qui commencent à rigoler ensemble, assis à la table. Hein, ça c'est des choses que Allah nous en préserve, qui sont vraiment graves. Et pour elles, le fait qu'elles portent le hijab, alors tout est permis par la suite. Elle peut s'asseoir avec les hommes, elle peut rigoler avec les hommes, hein, elle peut travailler en face avec un homme, et puis elle se dit, c'est pas grave, notre cœur est pur. Nous, on a des cœurs purs, on est comme des anges, on est protégés, comme les prophètes. A'ouzou billah. Et Annie, ça c'est une des meilleures ruses du shaitan pour égarer les hommes. De leur faire croire qu'ils sont en sécurité et qu'ils sont protégés de la fitna, hein. De leur faire croire que leur cœur est pur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى. Ne vous purifiez pas vous-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui le craint vraiment. Donc tu vois ces gens-là qui se disent: nous on a le cœur pur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des sahaba: ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. Et ça c'est plus pur pour vos cœurs, c'est-à-dire le cœur des sahaba et le cœur des femmes du professeur. Est-ce que vous vous pensez meilleur que les sahaba? Est-ce que vous pensez meilleur que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc vous pouvez vous permettre ce que eux ne se permettaient pas de faire. Hein? Ça, il n'y a pas de doute que c'est une compréhension complètement erronée et fausse de la réalité des choses. Hein? Et le cheikh il dit par la suite: wa innahu la min al-mu'sif al-muhzin ما وصل إليه كثير من الناس في العصر من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين Le cheikh il explique, vraiment il a raison, il dit, et c'est triste, hein, et ça c'est très désolant et triste de voir jusqu'à quel point certaines femmes musulmanes aujourd'hui sont arrivées à un point tellement bas dans le fait de négligence, hein, et de pas se couvrir comme il faut. Et c'est comme si elles font la course, hein, entre elles, et la compétition entre elles pour savoir laquelle va montrer le plus de ses atours aux hommes pour faire la fitna dans la société. Et le fait de prendre les vêtements qui ne couvrent pas comme il faut, hein, et elles prennent ces vêtements-là par imitation aveugle des mécréants et des apostats, hein, et des gens qui ont quitté la foi. Voilà, hawla. Voilà, quwwata illa billah. Il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah, le très grand et le très haut. Donc, ça, c'est des explications là que le cheikh nous donne qui sont vraiment importantes en fait et qui nous font réfléchir sur la réalité de notre société actuellement. Et si on regarde vraiment, c'est triste parce qu'on doit, comme on doit se dire vraiment, mais jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'où on s'en va comme ça? Et comme on n'est pas capable de réaliser l'absurdité du mode de vie de ces gens-là, hein, et la faiblesse de leurs arguments, et comment ils vivent pour des futilités, et comment le shaitan les a trompés, et comment la vie d'ici-bas les a aveuglés, au point de ne pas être capable de réaliser même le bien qui est dans le fait de se couvrir, et de les aveugler au fait de penser que ce qu'ils font a rapport avec la modernité ou bien le progrès ou bien le respect de la femme. A'oudou billah. Qu'Allah nous protège de ça. Regardez les filles musulmanes. Regardez les filles et les hommes musulmans. Catégorie parmi eux qui ont été égarés totalement, qui ne distinguent plus entre la vérité et le mensonge, qui vivent un mode de vie totalement pareil à celui des kuffars dans la plus grande partie de leurs manifestations. Par exemple, des jeunes filles musulmanes qui sortent dans les, comme des, dans les clubs ou dans les danses, les discothèques, comme vous appelez, je pense que vous appelez vous des boîtes. Eh ben, vous regardez ces jeunes-là qui sont musulmanes avec le nom, puis qui vivent comme des kuffars et qui s'imaginent qu'elles sont correctes comme ça et qu'elles font rien de mal. Eh bien, on voit jusqu'à quel point la Oumma est rendue. Et ça, ça se passe maintenant dans les pays musulmans, pas dans les pays kuffars. Hein, que ce soit en Turquie, que ce soit en d'autres pays, hein, on retrouve ces choses-là ouvertes, hein, des magazines de mode et même des concours de mode, hein, les Miss, je sais pas quoi encore. Donc c'est juste pour vous montrer que on est loin maintenant. Et il y a des pays, comme certains pays que j'ai pas besoin de mentionner, qui ont interdit de porter aux femmes de porter le hijab. D'accord? Donc ça c'est, il n'y a pas de doute que les gens de ces pays-là doivent se repentir à Allah et doivent désobéir à ces interdictions-là. Ils n'ont pas le droit de respecter ces interdictions. Hein? Bien entendu. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature si ça implique de désobéir au créateur. Ça, c'est un principe très clair dans l'islam. Ensuite, le Cheikh il dit إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. Ici il y a un point que je dois mentionner absolument, c'est la question des hommes qui prient en pantalon. Ça c'est une fitna qui est apparue dans les pays musulmans à l'époque de la colonisation en Égypte par les Anglais. Aucun musulman dans les pays musulmans n'avait l'habitude de porter des pantalons à la façon des kuffars. Jamais. C'était pas connu dans les pays musulmans. C'est seulement lors de la colonisation anglaise, je pense même que c'était Mohamed Abdou, hein, le mufti qui a été mis en place par les Anglais à cette époque, qui était un franc-maçon d'ailleurs, l'élève de Jamaluddin al-Afghani, l'Iranien chiite, hein, et bien c'est celui-là qui a fait la fatwa en premier pour permettre de porter ces pantalons-là. Avant ça, c'était pas connu dans le monde musulman. Des hommes qui portent des pantalons comme les kuffars. Hein? Et là, maintenant, on voit que, actuellement, c'est répandu partout. Dans le monde musulman, les hommes portent des pantalons. Comme si c'est quelque chose de normal. Hein? Alors là, tu les vois avec des jeans, des pantalons serrés, qui viennent à la mosquée prier comme ça. Et ça, c'est dangereux. Ça risque, c'est même une cause qui peut faire annuler la validité de la prière de quelqu'un. Quelqu'un doit couvrir sa aura et porter par-dessus ses pantalons quelque chose qui descend jusqu'au moins jusqu'au milieu des cuisses ou bien jusqu'au genou même. Hein, s'il n'est pas capable de porter le qamis. Bien entendu, la femme, comme on dit, elle peut porter les pantalons à condition que ce soit en dessous de sa robe. En dessous de sa robe, mais pas par-dessus. Ou ne pas sortir juste avec les pantalons seulement. Hein, elle peut porter en dessous de sa robe un pantalon ou quelque chose qui couvre ses jambes. Et ça, c'est bien en fait. Si elle le porte, surtout s'il fait froid, ou bien surtout si par exemple elle a peur de tomber, si elle tombe et puis qu'on voit ses jambes ou quelque chose comme ça, si elle a des pantalons en dessous de sa robe et de son djilbab, hein, ça c'est mieux. Wallahu a'lam. En ce qui concerne les hommes par contre qui prient à la mosquée avec les pantalons, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas permis. Hein. Et ils doivent porter par-dessus ces pantalons-là quelque chose qui couvre la aura. Hein? Sinon, ça risque d'annuler la valeur de la validité de leur prière. Parce que c'est une condition. Couvrir la aura, c'est une condition dans la prière. Et c'est pas vrai que le pantalon couvre comme il faut la aura. C'est pas vrai. C'est la même chose qu'une femme qui prierait avec des pantalons. Hein? Qu'est-ce qu'on dirait d'une femme qui prie avec des pantalons jogging ou bien avec des pantalons ordinaires? Est-ce que vous pensez que ça couvre comme il faut la aura pour une femme? Si les pantalons ne couvrent pas comme il faut la aura pour une femme, pourquoi elle couvrirait comme il faut la aura d'un homme? Si une femme prie avec des jeans serrés, hein, dans la rue ou dans un endroit public, yani, est-ce que vous pensez que ça c'est une chose qui couvrirait comme il faut sa aura? Alors si ça couvre pas la aura de la femme, pourquoi ça couvrirait la aura de l'homme? Hein? Donc il y a non seulement le fait qu'il y a une ressemblance au kuffar dans le fait de porter ça seulement, si on porte pas quelque chose par-dessus pour couvrir, yani, et également le fait que yani, ça couvre pas comme il faut la aura par elle-même, par lui-même, le pantalon est pas suffisant. Donc ça c'est quelque chose que les musulmans doivent faire attention à ce fait-là. Et des fois c'est le laisser aller. Puis le fait qu'on le mentionne pas, des fois ça fait en sorte que les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup de choses que les musulmans font qui sont contraires à l'islam, puis que les gens font parce qu'ils ne savent même pas le verdict à ce sujet-là. Donc le fait de le faire savoir aux gens, ça aide à faire en sorte que les gens reviennent. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné non seulement dans la salat de couvrir notre aura, mais quelque chose de plus encore, c'est-à-dire de prendre nos parures, c'est-à-dire de se couvrir avec nos plus beaux vêtements et notre plus belle apparence. Hein? Bien entendu, ça c'est pour les hommes lorsqu'ils sortent, et non pas pour les femmes de mettre leur belle robe lorsqu'elles sortent pour aller à la mosquée, pour faire la fitna dans la rue. Hein? Donc, on doit porter nos plus beaux vêtements lorsqu'on sort, en particulier le Jumu'ah, et en particulier yani l'Aïd, hein? Mais en général aussi, lorsqu'on sort, il faut mettre nos beaux vêtements et non pas seulement couvrir notre aura. Lorsqu'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut sortir avec nos plus beaux vêtements. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans sourate Al-A'raf, ô fils d'Adam, prenez vos parures lorsque vous entrez dans toute mosquée. Hein? Et en même temps, donc, on va terminer avec ça ici. Et puis, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous couvre de sa miséricorde et qu'il nous aide et qu'il nous guide. Et en même temps, yani, qu'il aide nos frères et nos sœurs qui sont dans des pays où ils ont la fitna à cause du fait qu'ils respectent les règles de leur religion, comme par exemple en France où on interdit le fait de, on interdit aux femmes de se couvrir dans les endroits publics, etc. Donc, et également dans d'autres pays musulmans. Et ça, c'est une fitna, c'est triste. Mais en même temps, je recommande aux femmes, comme les ulama ont expliqué, yani, de ne pas se laisser entrer dans la fitna elle-même, de pas accepter d'enlever leur hijab, et c'est-à-dire de rester à la maison, hein, de pas aller à l'école, et de pas accepter d'enlever son jilbab pour aller à l'école. Comme les ulama ont expliqué, si la femme a appris à lire et à écrire, et qu'elle est capable de lire le Coran et lire les hadiths et tout, et bien ça c'est suffisant pour elle, et le reste après elle peut apprendre qu'est-ce qu'elle veut à la maison. C'est pas obligé de sortir dehors. Hein? C'est pas obligé que toutes les femmes musulmanes deviennent des médecins, que toutes les femmes musulmanes deviennent des ingénieurs ou docteurs, comme certains parmi les gens d'aujourd'hui essaient de nous faire comprendre que toutes les femmes musulmanes doivent toutes devenir des gynécologues. Et ça c'est une mentalité actuellement yani, qui est en train de faire comprendre que toutes les femmes musulmanes doivent toutes devenir des médecins et des gynécologues. Yani, ça c'est de l'extrémisme. Yani, hein? Donc il faut comprendre que yani, la vie d'une femme musulmane c'est qu'elle étudie qu'est-ce qui est nécessaire pour elle tant que c'est dans le halal et tant qu'il n'y a pas de contradiction avec la charia. Si elle sait lire et écrire des choses qui sont nécessaires pour apprendre et connaître son Créateur et comment appliquer sa religion, c'est ça qui est le nécessaire et c'est ça qui est l'obligatoire. Par la suite, hein, si ça implique un péché ou une contradiction avec la charia, dans ce cas-là, elle peut continuer à apprendre par elle-même ou avec des durous, soit avec les ulama, les chouyours par internet ou à la mosquée ou des choses de ce genre, sans avoir à se mettre en contact avec les hommes étrangers, etc. Donc on demande à Allah de nous faciliter les choses, de nous aider dans notre religion, de nous donner la victoire sur les peuples mécréants, et de nous aider yani, yani dans tout ce qu'on a besoin yani. Donc on va s'arrêter ici puis on continuera la troisième condition inshallah demain, c'est d'enlever les choses impures lorsqu'on fait la prière, c'est la troisième condition. Donc subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Si des frères ou des sœurs ont des questions, je vais vous écrire une adresse où vous pouvez écrire vos questions inshallah. Si j'ai la question, je vous répondrai inshallah demain si c'est possible, sinon dans le prochain cours bi'iznillah. Donc je Donc comme je disais, je vais vous écrire une adresse, puis vous pouvez m'écrire à cette adresse-là, envoyer vos questions, et puis inchallah, je vais tenter mon possible pour vous répondre, bismillah. Ou bien vous pouvez l'envoyer également à l'adresse du groupe sur Yahoo, CAIM. D'accord, inchallah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.